Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Isabelle Schmitz, bonjour.
Bonjour Christophe.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste au Figaro hors-série, le Figaro hors-série qui est un partenaire de Canal Académie. Et vous, en tant qu'hispanisante, vous nous présentez une série de portraits et d'éphémérides intitulée « À la découverte du Nouveau Monde ». Donc après avoir présenté Isabelle la Catholique, après avoir présenté Hernán Cortés et la première partie de la vie du dernier empereur de l'Empire aztèque Moctezuma, eh bien, nous allons évoquer au cours de cette éphéméride la rencontre entre les deux hommes, entre Cortés et Moctezuma. Alors, nous avions terminé la dernière émission consacrée à l'empereur Moctezuma, finalement sur les signes avant-coureurs de la chute de l'empereur Moctezuma. Et dans ces signes avant-coureurs, on parle du retour de Quetzalcoatl. À quoi correspond ce retour de Quetzalcoatl ?
Alors, Quetzalcoatl, en fait, était le dieu, l'un des dieux, enfin, le dieu fondamental évoqué dans le Popol Vuh des Mayas, dont sont sorties, en fait, les croyances religieuses des Aztèques, puisque les Mayas et les Aztèques ont une même origine, même si ensuite ils se différencient. Quetzalcoatl est donc le dieu qui est arrivé avec les Aztèques, qui s'est installé, qui se serait installé dans l'Aztlan, qui est en fait un territoire mythique qui n'a pas d'existence géographique, mais qui préfigure la vallée de Mexico. Et on dit que ce dieu serait resté 300 ans, je crois, et qu'il aurait été chassé ensuite par un autre dieu appelé Tezcatlipoca, autrement connu ou en tout cas accompagné du dieu Huitzilopochtli. C'est un peu complexe, mais ça l'est même pour les spécialistes, puisque y a pas mal de confusion entre ces dieux-là. Toujours est-il que...
Les dieux se succèdent. Hein.
Voilà, les dieux se succèdent. Et à l'époque de Moctezuma, c'est le dieu Huitzilopochtli, le dieu du soleil, qui est adoré.
Qui est à l'honneur.
Alors, Quetzalcoatl serait parti en annonçant son retour. Il serait parti du côté de l'Est, en annonçant qu'il reviendrait ou que ses descendants reviendraient. Et donc, la mentalité aztèque est très marquée par cette idée du retour de Quetzalcoatl et des existences cycliques des mondes. Chaque monde, en fait, est appelé un soleil. Chaque période du temps est appelée un soleil. Et donc, Moctezuma vit au cinquième soleil avec cette idée en arrière-fond que ce cinquième soleil prendra fin un jour. Il n'espère pas avec lui, puisque dans toute la première partie de son règne, l'Empire est à son apogée et donc il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il s'écroule. Mais en tout cas, avec l'arrivée de ces mystérieux hommes blancs et barbus et certains signes assez bizarres comme des comètes, des tremblements de terre, des lumières nocturnes et des choses comme ça, l'empereur commence à s'inquiéter et à consulter un peu tous les prêtres, tous les gens qui peuvent être versés dans les prédictions pour savoir si l'on attend un retour. Et donc, on dit aujourd'hui que toutes ces croyances auront beaucoup bénéficié à Cortés et à ses hommes, puisque pendant des mois, on ne sait pas qui ils sont, on se demande si ce sont des dieux, si c'est Quetzalcoatl lui-même qui est réincarné, si ce sont ses descendants, et donc c'est extrêmement troublant.
En quelque sorte, il y aurait eu une certaine fatalité de la part des Aztèques qui auraient considéré Cortés comme le retour du serpent à plumes, comme le retour de Quetzalcoatl.
Oui, une sorte de fatalité. Ceci dit, effectivement, il y a... La thèse est controversée, ou disons, il y a à la fois une fatalité, mais en même temps, le fait que Quetzalcoatl peut mettre du temps à revenir, que Huitzilopochtli, le dieu du soleil, peut aussi défendre sa cité, et que donc, ça peut valoir la peine quand même de lutter pour lui. Et tout ça est assez difficile à gérer. On verra dans le comportement de Moctezuma, il y a très certainement un grand débat intérieur pour savoir quelle attitude adopter.
Est-ce que Cortés, Isabelle, on se doute qu'il tire parti de cette situation, de ses croyances ?
Oui, il tire parti de ses croyances d'une certaine manière. C'est-à-dire que ses croyances jouent à son avantage, mais il ne se fait absolument jamais passer pour Quetzalcoatl. À chaque fois qu'il arrive, il fait un petit discours, en fait, dans tous les lieux, toutes les cités où il arrive, où il explique que lui est un homme comme eux et qu'il vient au nom du roi d'Espagne. Je vous lis une de ses lettres dans laquelle il relate ça. Donc, il ne venait pas dans l'intention de leur faire aucun mal, mais pour les engager à accepter les doctrines de notre sainte religion. Il ajouta que nous avions pour seigneur les plus grands princes du monde, qui étaient eux-mêmes les sujets d'un prince plus grand encore, le pape, et qui ne demandait aux caciques et aux Indiens rien d'autre que d'obéir à leurs altesses, ce qui leur attirerait toute espèce de bien et empêcherait que dorénavant personne leur fît du mal. Donc en fait, Cortés se présente tout de suite comme le délégué, le vassal, disons, de roi très puissant, Charles Quint en l'occurrence, du pape. Il se présente comme l'homme qui est chargé de leur annoncer la nouvelle religion, mais pas du tout comme le dieu Quetzalcoatl.
Alors je renvoie nos auditeurs au portrait d'Hernán Cortés pour en savoir plus sur ce personnage qui est bien évidemment majeur. Nous sommes en 1519. Le texte que vous venez de citer, Isabelle, c'est au moment de son arrivée. Il y a 500 soldats, il y a des moines, il y a quelques chevaux, quelques canons. On a même le nombre d'armes en leur possession, que ce soit les arbalètes ou les arquebuses. Il vient en conquérant, mais on sent malgré tout chez cet homme, chez Cortés, un certain respect. Par exemple, l'interdit à ces hommes d'accepter de l'or de la part des Indiens.
Oui, pour en fait éviter une trop grande avidité et une trop grande cupidité. Cette interdiction, ceci dit, ne sera pas constante tout au long de sa présence et lui-même sera certainement très tenté d'accepter les cadeaux et l'or. Mais en tout cas, il a un réel souci d'être bien accepté et que les Indiens soient bien traités. Parce qu'il veut vraiment leur proposer d'être les sujets de la couronne espagnole, de se convertir, mais il n'a pas idée de les asservir et de supprimer tout leur gouvernement. On verra un peu tout le jeu qu'il aura avec Moctezuma, qui est assez resserré dans le temps puisque les événements seront très tendus, je vais le raconter. Mais dès leur rencontre, il le respecte, il lui fait tout un discours pour lui dire qu'il n'est pas venu pour renverser son empire, mais il est venu au nom de son roi pour lui proposer d'être son vassal et lui amener la vraie foi. Et ce respect est très tangible et on lui a reproché beaucoup de choses lors du procès à la fin de sa vie, mais pas celui, en tout cas, d'avoir manqué totalement de respect envers les Indiens. C'est plus nuancé.
On se doute que Moctezuma est méfiant.
Oui, Moctezuma est méfiant. Pendant des mois, d'une part, il les a fait observer. Il a fait observer les conquistadors par ses ambassadeurs. Il a fait envoyer des peintres qui lui transmettent des portraits, des choses pour voir de quoi ils ont l'air. Portraits qu'il fait examiner par ses prêtres pour savoir qui c'est.
Et il envoie même de la chair humaine.
Il envoie de la chair humaine. Il leur propose à manger en disant « Si tu es un de ces dieux qui se nourrissent d'hommes, prends ces esclaves et mange-les, nous te les donnons. Si tu es un dieu bon, accepte ces fleurs. » Et donc, pendant des mois, il lui fait des cadeaux en lui disant qu'il est très heureux de lui faire ce cadeau, mais que maintenant, il n'est pas disponible pour le rencontrer et que voilà, qu'il soit bienvenu dans son pays, mais qu'il s'en aille aussi assez vite. En fait, c'est un message en pointillé. Et donc, pendant des mois, il y a un espèce d'affrontement masqué, puisqu'il est forcé de finir par accepter Cortés et lui envoyer des cadeaux, etc., parce que les Espagnols font une progression très importante dans le pays, s'allient beaucoup de cités rivales, entre autres la très puissante Tlaxcala, qui est une des principales ennemis de Mexico. Et donc, petit à petit, l'empereur voit son empire se lézarder et s'allier aux Espagnols. Et jusqu'au jour où il est contraint de le rencontrer, ce fameux jour de novembre 1519, où il va à sa rencontre, c'est le 8 novembre 1519, et dans le calendrier aztèque, c'est l'an 1 roseau, le 9e jour du mois de Quecholi. Et donc, c'est ce jour-là que Moctezuma se porte à la rencontre de Cortés, tout en s'étant fait précéder d'un faux Moctezuma. Aujourd'hui, on dit c'est parce qu'il avait peur et qu'il pensait que Cortés allait le tuer. Michel Grolich, l'historien spécialiste de ces questions, ne le pense pas du tout. Il pense que c'est pour tester la sagesse de Cortés et voir si, en se disant s'il est un dieu, s'il a des informations, il va savoir que ce n'est pas moi.
Mais avant cette rencontre, on se doute que Moctezuma ne reste pas inactif. Il tient à riposter. Il va essayer de contrer cette progression espagnole, notamment vers ces cités qui se rallient à Cortés.
Oui, bien sûr. C'est vrai. Moctezuma, alors, il y a deux choses. Il a peur de l'affronter en direct parce qu'il est bien informé de l'armement des Espagnols et donc il est incertain de l'issue militaire d'une bataille. Et donc il se dit, si l'armée de Mexico est défaite, ça va être une catastrophe totale pour la renommée de Mexico dans l'Empire. Donc il préfère s'allier à Cholula, une cité vassale en fait, en leur disant, invitez donc les Espagnols chez vous, proposez-leur d'être leurs alliés et attaquez-les. Et nous, on vous soutient, on vous renforce. Cortés, évidemment, va à Cholula parce qu'il y est invité. Les Tlaxcaltèques le mettent en garde en disant « Attention, c'est un piège, n'y va pas ». Un des signes très mauvais, selon les Tlaxcaltèques, c'est que quand Cortés et ses hommes rentrent dans Cholula, ils sont encensés. Et là, les Tlaxcaltèques leur disent « Attention ». Sachez, Seigneur, que cette façon de recevoir est mauvaise et ils laissent entendre qu'ils sont en guerre et qu'ils veulent vous sacrifier ou vous tuer. Parce qu'effectivement, on encensait les victimes. Il y a des textes de réception des victimes de sacrifices qui sont assez morbides, mais assez cocasses, puisqu'on encense les victimes, on leur dit « Bienvenue dans ce royaume, vous avez le privilège de le contempler parce que vous êtes ici, venu pour mourir. » Et donc, il y a toute une littérature autour de ça, et dont fait partie la réception avec de l'encens, etc. Donc les Espagnols arrivent, s'installent, ont quand même la puce à l'oreille à cause de nombreux détails comme ça, et du coup, au lieu d'être massacrés dans la nuit pendant leur sommeil, comme c'était le plan initial, eux-mêmes contre-attaquent avant l'attaque, finalement, et massacrent la plupart des guerriers de Cholula qui étaient massés là pour les tuer. Et donc Moctezuma est pris de court, et
il est obligé de le rencontrer.
Il est obligé de le rencontrer. Voilà, il fait plusieurs tentatives qui ne marchent pas, et donc il est obligé de le rencontrer en espérant en fait l'amadouer, l'amollir avec beaucoup de luxe, de cadeaux, de choses comme ça, et de se dire il ne perd rien pour attendre. Une fois qu'il sera dans la ville, on pourra le tuer, lui et ses hommes.
Alors je vais me garder de faire une analogie entre Cortés et Jeanne d'Arc, mais Moctezuma a fait exactement ce qu'a fait le futur Charles VII quand il n'était pas encore roi, c'est-à-dire qu'il a demandé à un des membres de sa cour de jouer le rôle du roi, le rôle du dauphin en tous les cas. Donc Moctezuma fait la même chose, il se fait remplacer lors de la rencontre.
Oui, exactement, c'est vrai que c'est assez troublant, et c'est pas si loin dans le temps en plus, et Cortés ne s'y laisse pas prendre, ce qui en fait renforce son prestige aux yeux de Moctezuma, qui se dit... Ce n'est peut-être pas un dieu, mais en tout cas, il a des lumières très certaines.
Moctezuma, finalement, est obligé de rencontrer Cortés. Comment se passe cette rencontre ? Il y a des discours
Oui, il y a des discours. D'abord, quand les Espagnols arrivent, Moctezuma est dans une litière, mais pied à terre, il va à leur rencontre, sous un dais de plumes vertes, et or, de pendentifs d'argent, enfin, de manière très luxueuse. Il est entouré par 200 nobles qui marchent derrière lui, la tête basse, assez terrorisé par ces hommes blancs qui ont l'air invincibles. Et donc, il arrive et il fait très bon accueil à Cortés. Je vous lis un extrait de son discours de bienvenue. Il lui dit « Oh, notre Seigneur, tu as souffert bien des fatigues, tu es là. Voici que tu es arrivé sur la terre. Voici que tu es venu t'approcher de ta cité de Mexico. Voici que tu es venu descendre sur ta natte, sur ton siège, que pour un moment je t'ai gardé, je t'ai conservé. » Là, il s'adresse à lui comme s'il était en fait la réincarnation de Quetzalcoatl, puisqu'il dit « Je t'ai gardé ton trône. » Car ils sont partis, tes gouverneurs, les seigneurs souverains, Itzcoatl, Moctezuma l'Ancien, etc., etc. Eux qui, pour si peu de temps, étaient venus garder tes biens, étaient venus gouverner la cité de Mexico. Dans leur dos, derrière leurs épaules, ont avancé les gens du peuple, etc., etc. J'étais envahi de mauvaises impressions depuis 5 ans, depuis 10 ans déjà. J'ai regardé là-bas, vers l'endroit inconnu d'où tu es sorti, d'entre les nuages, d'entre les brouillards. C'est donc bien cela qu'avaient dit en partant les seigneurs souverains, que tu viendrais descendre ici, sur ta natte, sur ton trône.
Moctezuma apparaît comme un piètre politique finalement, parce que il tergiverse beaucoup, il attend, il le reçoit, il apparaît comme prisonnier finalement de sa ville, puis ensuite il va être considéré comme une sorte de collaborateur des Espagnols, il va vouloir s'enfuir, il ne maîtrise absolument pas les événements.
Disons qu'il essaie de les maîtriser, mais je serais peut-être plus nuancé dans cette analyse, parce que disons qu'il est dans une situation assez inextricable. Ses envahisseurs arrivent, ils sont alliés à tous les ennemis de Mexico, l'empereur essaye de garder la face, il a tout fait pour ne pas les rencontrer, pour essayer de les éloigner, etc. Mais disons qu'une fois qu'ils sont là, il essaye de sauver les apparences, et je dirais de sauver les meubles, tout simplement. Parce que même s'il est un guerrier courageux, et enfin Michel Grolich le dit, on a beaucoup terni son image après coup, en disant finalement, si c'était, il était ramolli, il était dans son luxe, c'était un peureux, un couard. Lui ne croit pas du tout ça, il pense que Moctezuma... D'une part, un plan machiavélique, si on veut, mais qui est d'installer tellement bien les Espagnols dans les délices de Mexico, comme dans les délices de Capou, qu'ils pensent pouvoir venir à bout d'eux et les endormir, en fait, les étouffer là-dedans, et les tuer une fois leur méfiance éteinte. Et également, il a quand même le souci de la survie de sa cité. Or, il constate que Cortés, au départ, le respecte dans son autorité, qu'il continue à gouverner sur un empire qui est finalement plus uni et plus étendu que quand il était lui-même à la tête suprême, puisque les alliés ont l'air unis. Donc, tout va bien au tout début. Ceci dit, le tout début dure assez peu, puisque 6 jours après, Cortés se rend compte de la menace en fait d'un empereur libre et surtout la pression des nobles aztèques, et donc assigne Moctezuma à résidence, le fait prisonnier, avec beaucoup d'égards, et ça j'insiste. L'empereur, d'ailleurs, est totalement estomaqué. Il lui dit « Mais ma personne n'est pas de celle qu'on fait prisonnière. C'est complètement inconcevable. » Il faut voir, je ne l'ai pas dit avant, mais que la société aztèque était extrêmement hiérarchisée, que nul n'avait le droit de regarder l'empereur et de le regarder dans les yeux, sinon il était passible de mort. Enfin, et donc, c'est une inversion totale. Mais l'empereur n'a pas le choix. Il essaye malgré tout de s'acclimater. On dit aussi qu'il s'entend bien avec Cortés, qu'il parle beaucoup. Cortés essaie de lui proposer le baptême, ce qu'il refuse. Et disons qu'il essaye au mieux de s'adapter à l'occupant, si on peut dire. Il y a la posture de ceux qui partent en laissant tout et qui préfèrent se désintéresser de tout ça. Et puis il y a celle de celui qui se dit « je suis là, il faut que j'essaye de sauver mon peuple ». Et donc, en fait, il y a une crise majeure, c'est le moment où Cortés se rend compte que le grand temple de Huitzilopochtli fonctionne encore, ce qui veut dire qu'il y a des sacrifices humains tous les jours. Certains historiens parlent de les jours, on va dire les jours ouvrables, les jours normaux, 72 victimes quand même, et les jours de fête, des dizaines de milliers. On parle de 20 000 victimes en 3 jours pour l'inauguration du grand temple de Mexico. Cortés se dit, ce n'est pas possible que ça continue, et donc il demande à Moctezuma de faire enlever les idoles. L'empereur s'oppose et dit, mais si vous faites ça, ça va être la révolte générale, ça n'est pas possible. Et Cortés le contraint à sortir et à dire à son peuple, on va déplacer nos dieux qui nous ont abandonnés. Et donc là, je dirais, c'est effectivement là, le piège se referme autour de Moctezuma, parce qu'évidemment, cette mesure est totalement impopulaire. Les idoles sont déplacées et du coup, le peuple commence à penser que son empereur n'en a plus de pouvoir.
Mais l'affrontement donc semble inévitable, il y a un affrontement guerrier.
Il y a un affrontement guerrier, effectivement, qui se passe en fait quand Cortés, en fait, la pression monte, Moctezuma est en train d'essayer de soulever des troupes secrètement, et coup de théâtre favorable aux Aztèques, à ce moment-là débarque tout un contingent de 1000 guerriers espagnols envoyés par Velázquez, qui était à l'époque le gouverneur de Cuba, le supérieur en fait de Cortés, qui estime que Cortés est parti sans son autorisation et qu'il n'a pas de mandat pour conquérir le Mexique et donc il veut tout simplement le faire arrêter. Donc ces informations circulent assez vite et du coup les Aztèques sont totalement revigorés, se soulève pendant que Cortés, lui, est sorti de Mexico pour aller au-devant des Espagnols qui veulent l'arrêter. Et il réussit, dit-on, par son charisme et par ses harangues aux soldats espagnols, en fait, à retourner les 9 dixièmes de l'équipage. Et donc, il revient à Mexico renforcé avec des troupes nouvelles. Mais c'est déjà le soulèvement général, le massacre. Disons que Pedro de Alvarado, qui était chargé de la garde de Mexico, a fait donner l'assaut puisqu'il voyait une ambiance extrêmement tendue, imprégnée également de fanatisme religieux. Mais en tout cas, c'était les préparations de la fête des dieux de la cité avec des danses, des préparations guerrières qui devenaient très menaçantes. Et donc, quand Cortés arrive, l'affrontement est là depuis plusieurs jours. Il arrive dans une ville qui est pour une part un peu détruite, pour une autre morte, puisque les gens se barricadent chez eux parce qu'ils ont peur, ils savent qu'une nouvelle armée arrive. Et à ce moment-là, en fait, la rupture avec Moctezuma est comme consumée, puisque Cortés voit qu'il a été trahi par cet homme qu'il essayait de traiter en ami et en égal. Et donc, tout cela se dégrade un peu vite. Et en fait, Cortés finit par demander son aide à Moctezuma lors du soulèvement général parce qu'il voit que, disons qu'ils vont tous y passer, mais non seulement les Espagnols, mais toute la cité, que la cité est en flammes. Et il se dit, l'empereur, c'est le dernier qui puisse calmer ça. Et Moctezuma lui fait cette réponse. « Seigneur, il est un peu tard pour me demander mon aide. Vous vous êtes souvenu de moi tardivement, monsieur, car ils ont déjà élu et fait seigneur mon frère. » Ce frère qui s'était échappé, et ils ont décidé de ne pas vous laisser sortir vivant d'ici. Néanmoins, j'irai comme vous me l'ordonnez. Donc c'est ce fameux jour, fin juin 1520, que Moctezuma sort avec Cortés pour haranguer la foule sur une terrasse, et en fait il est tué par les siens, par un jet de pierre. On ne sait pas si c'est volontaire ou pas. Certains historiens pensent qu'il est vu comme le collaborateur et celui qui a tout livré et donc qu'il faut punir. Ou bien, tout simplement, les gens ne le reconnaissent pas, pensent que c'est un Espagnol et donc il meurt 3 jours après cet accident.
Alors, peut-être un dernier mot, Isabelle, sur Moctezuma. Michel Grolich dit qu'il était prisonnier de ses mythes.
Oui, il dit ça et je crois que c'est très éclairant. Il est prisonnier, en fait, du mythe des soleils qui déclinent, du fait que chaque période a une fin et que donc, dès qu'il voit des signes étranges, il se dit « c'est peut-être la fin de ma période ». Il est prisonnier du mythe de Quetzalcoatl, donc ce dieu qui doit revenir et qu'on a chassé de chez lui, donc avec une sorte de mauvaise conscience et d'inquiétude par rapport à lui. Il est prisonnier des mythes des Mexicas, de leurs ancêtres, errants et pauvres et austères qui seraient venus et auraient acquis la gloire, mais dont lui-même se serait éloigné parce qu'il vit dans le luxe et le pouvoir. Et donc il se dit que peut-être les Espagnols sont la réincarnation de ces pauvres courageux et qui vont le supplanter. Et donc, effectivement, Michel Grolich pense que tout cela a miné sa confiance et a, non pas anéanti sa combativité, mais en tout cas a été une charge très lourde à porter. Mais il finit quand même en disant « Moctezuma fut victime de ces mythes, mais qui ne l'aurait pas été alors qu'il serrait de si près la réalité de la vie et de l'histoire ?»
Eh bien Isabelle, c'est sur ces derniers mots que nous allons nous quitter. Merci beaucoup d'être venue au micro de Canal Académie pour faire cette série de portraits. Nous renvoyons nos auditeurs à la biographie de Moctezuma de Michel Grolich aux éditions Fayard. C'est une biographie parue en 1994. Merci beaucoup.
Merci.
Et restez à l'écoute de Canal Académie. À très bientôt.